France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, trois récits puissants qui plongent au cœur de la folie et des secrets de famille pour interroger la violence, qu'elle soit subie, infligée ou héritée.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
D'abord, nous recevrons une romancière suisse, Alice Botello, pour Folie entre mes doigts, publié au Mercure de France. Ce roman nous emmène dans le quotidien d'une clinique psychiatrique à travers le regard d'Alice, une jeune femme qui s'y fait interner de son plein gré. C'est une exploration de la maladie mentale vue non seulement comme une pathologie, mais aussi comme une forme de résistance aux violences subies. Je suis ravie de recevoir aussi Catherine Girard avec In Violentia Veritas, paru chez Grasset, un récit autobiographique où la narratrice découvre, adolescente, que son père a été accusé d'un triple meurtre à la Serpe des années plus tôt. Le livre est une quête généalogique qui explore l'amour filial face à l'horreur et une violence héréditaire transmise de génération en génération. Et enfin, David Thomas, avec son livre intitulé « Un frère » aux éditions de l'Olivier, il raconte la double perte de son frère Édouard, une première fois à cause de la schizophrénie qu'il a éloignée pendant près de 40 ans, et une seconde fois à sa mort. C'est un texte pudique sur le deuil et sur la maladie mentale, décrite comme un enfermement et une souffrance indescriptible d'être coupé des autres et de soi. Trois livres, trois explorations des zones d'ombre de l'âme humaine, mais une même interrogation vertigineuse: quand le drame fait effraction dans nos vies, comment la littérature peut-elle se saisir de la vérité? Nous en parlerons avec nos invités, avec nos libraires francophones, présents comme chaque semaine, tout au long de l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Catherine Girard, Alice Botello et David Thomas, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Alors, vos trois livres sont traversés par des figures marginales dans la société. Le criminel, avec la figure de votre père, Catherine Girard, la folle, c'est ainsi que se qualifie votre narratrice, Alice Botello, et le malade mental, votre frère schizophrène, David Thomas. David Thomas, vous écrivez un moment dans le livre « Je ne crois pas qu'écrire soulage ». Alors, je vous pose la question, pourquoi avoir écrit ce livre-là, David Thomas ?
Pour ranger ma chambre.
Pour ordonner.
Oui. Pour ranger. Je pense que ce genre de livres, pas tous les livres, pas toute la littérature, mais ce genre de livres sont faits pour avoir, se donner l'illusion d'avoir la main sur le réel. La vie, c'est le désordre. Les émotions, les liens, c'est le désordre. Et parfois, ce désordre nous submerge. Donc, écrire nous aide à recomposer des choses, recomposer un puzzle.
Et c'est pour dans quel but? Pour rendre les choses plus supportables?
Ben oui. Se remettre la tête hors de l'eau, et ben on range.
Mais est-ce que c'était conscient au moment de l'écriture du livre, ou est-ce que vous avez compris après que vous aviez rangé votre chambre?
Non, je l'ai compris en le faisant. Je savais absolument rien de ce que je faisais, de ce que j'allais faire. Je le raconte d'ailleurs,
oui,
dans le livre, en commençant ce livre. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, Mais bon, je l'ai fait, et au fur et à mesure de l'écriture, les choses se sont éclaircies.
Catherine Girard, même question pour vous. Vous avez cette figure marginale, justement, avec votre père, et je voulais savoir pourquoi vous avez écrit ce livre.
Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Il y a quelque chose que je retrouve dans ce que dit David Thomas. Alors, peut-être pas exactement la même chose, mais écrire, pour moi, était la meilleure façon de me mettre en face d'une vérité qui était très difficile à appréhender à l'âge où je l'ai su, et surtout qui était très difficile à concilier avec un amour débordant pour un père. Parce que cet amour-là est incontournable, et d'autant plus que moi, je vis avec une réalité qui appartient au passé. Et je vis avec un père absolument extraordinaire en tant que père, et puis une réalité qu'à l'époque je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter, et donc je l'enfouis tout au fond de l'amour qui a cette relation fortement aimante entre mon père et moi, et pour ça je la vide de son sens, c'est-à-dire que je la vide de toute réalité. Je peux me dire mon père a tué, je l'ai déjà dit, mais ça n'a pas de sens. Je me suis mise à écrire parce qu'avec le temps, eh bien, une telle vérité, il faut un cheminement très long avant d'être à même d'ouvrir les yeux dessus et de la comprendre. Et moi, comprendre, c'est une passion dans la vie. J'aime comprendre absolument tout.
Et est-ce qu'à travers ce livre, vous avez compris des choses ?
Oui. J'ai compris des choses, mais qui dépassent le personnel. J'ai compris... Je suis allée un peu plus loin dans le fonctionnement de l'âme. Je suis allée peut-être un tout petit peu plus loin, mais c'est tellement complexe qu'on ne va jamais tout au bout, hein, sinon...
Oui, c'est vrai, c'est un chemin. Alice Botello et vous, alors pourquoi avoir écrit sur cette narratrice qui vous ressemble, si je comprends bien ?
Je pense que, c'est un premier roman, donc il y avait je ne savais pas en fait s'il allait être publié ou pas. Je crois que je ne l'ai pas écrit en commençant pour un texte, enfin, comme une narration qui allait être publiée. Peut-être que c'est les forces des premiers romans et aussi leurs failles.
Vous avez commencé à l'écrire pourquoi ?
J'ai commencé dans un contexte où je voulais faire des portraits de ces femmes folles. Je voulais faire des portraits de folles parce que je les trouvais superbes et pathétiques et j'avais envie de travailler justement sur cette ambivalence. Et c'est en faisant ces portraits que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'elles interagissent entre elles pour que ça fasse une vraie vie, en fait, de ces personnages.
Est-ce que c'était une manière, je vous pose la question à tous les trois, une manière aussi de rendre justice à des histoires qui, sans vous, seraient restées dans l'ombre, Catherine Girard ?
Non, pas du tout. Ça, c'est des amis qui... Des amis ont eu ce discours, parce que c'est une vérité que je n'ai jamais cachée à mes proches. Mais je n'ai pas du tout voulu rendre une vérité à la justice. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu comprendre, l'écriture étant pour moi le moyen d'expression dans lequel je suis en tout cas le plus à mon aise, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire me mettre en face d'une chose et comprendre ce que je savais d'une façon interne, avec méthode, c'est-à-dire par le travail d'archives assez énorme que j'ai fait, et qui d'ailleurs va me faire arrêter mon écriture pendant 2 ans. Parce qu'une fois que je réalise sur papier ce que je sais de l'intérieur et que finalement cette vérité prend sens, je me dis que je ne suis pas capable de concilier les deux, parce que je ne vois pas le rapport entre ce père formidable, pardonnez-moi, c'est ce que j'en pense, et cette vérité formidable au sens propre, c'est-à-dire qui fait effrayante. Mais quand j'arrête, c'est pour moi comme un échec, parce que je voulais rendre cette dignité, cette beauté que je trouvais à cet homme, avec la vérité que je savais. Et donc, quand j'arrête pendant 2 ans, parce que figée par l'horreur de ce que confirment les pièces d'archives de la vérité que je savais...
Vous ressentez quoi à ce moment-là vous...
Ah, des colères épouvantables. Alors, j'avais une relation très, très, je vais dire, intelligente, au sens bonne intelligence, avec mon père, c'est-à-dire qu'on avait une relation faite d'amour assez fusionnelle, mais on avait peur de se parler de rien. On pouvait parler toute une nuit d'un thème philosophique ou moral, ou etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je lui aurais opposé, sauf que cette colère, il n'était plus là pour que je l'y confronte.
Et vous n'aviez pas eu envie de le faire avant, de son vivant ?
Non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une vérité comme ça, quand vous avez 14 ans, vous ne pouvez pas la prendre dans son sens cru. Je l'avais vraiment désamorcée pour la comprendre, d'ailleurs, de la même façon qu'il me l'a livrée nue.
Oui.
Ce que je trouve, en y réfléchissant, parce qu'en écrivant le bouquin, écoutez, mon livre, j'ai dû me mettre à sa place. Moi, je suis mère aussi d'enfants qui ont été adolescents, et je me suis imaginée devoir dire à mes enfants, j'ai tué ma mère, j'ai tué... Lui, c'est terrible, quoi.
Dans vos textes, il y a aussi la question du corps qui est très présente. Alice Botello, votre narratrice décrit les convulsions et la douleur insupportable. Chez vous, la douleur psychologique est une douleur physique. Catherine Girard, votre récit est marqué aussi par la violence, des corps atrocement mutilés, la flagellation subie par votre père, la gifle qu'il donne à un moment. David Thomas, vous décrivez le corps de votre frère grimé par la mort, marqué par les effets des médicaments. D'où ma question, quelle place David Thomas occupe le corps dans votre écriture ?
Bon, moi, j'ai retrouvé mon frère plusieurs jours après son décès. Il faisait extrêmement chaud à Paris à ce moment-là. Et donc, ce que j'ai vu n'était pas très joli. C'était assez brutal. Et j'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette histoire du corps, que c'était la dernière fois que j'étais en présence du corps de mon frère, et j'évoque justement que nous sommes aussi des corps, nous sommes aussi des... ce qui nous échappe totalement. Et alors moi, ce qui nous échappe, c'est la matière pratiquement de tous mes livres précédents. Je suis un auteur de micro-nouvelles, et j'ai fait d'instantané, et je fais beaucoup d'instantané, justement, j'adore mais écrire là-dessus. J'adore ce qui nous échappe. J'allais dire qu'il y a trois moments où, moi, qui me passionne, c'est quand on éternue, quand on se casse la gueule et quand on jouit. Parce qu'à ces trois moments-là, on ne peut pas...
On perd le contrôle.
On perd totalement le contrôle de notre visage. Moi, ça m'abuse beaucoup, parce que c'est ce que je demande. C'est ce que je cherche chez mes personnages. Cette espèce de...
Mais la schizophrénie, c'est presque la mise en... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est effectivement une sorte de perte de contrôle permanente, non ?
Je ne sais pas si c'est une perte de contrôle. Je pense que c'est une tyrannie. On est,
gouverné par.
On est gouverné par une force intérieure et qui prend la main sur vous-même, en fait. Moi, avec mon frère, c'est comme ça que je le lis. Je ne dis ça que par rapport à mon frère par rapport à ce que j'ai pu en vivre.
On en parle dans quelques instants, justement, avec Alice Botello, puisque l'autre point commun de vos livres, c'est la question de l'interdit, ou plutôt la tension entre la difficulté, voire l'interdiction de raconter, et une nécessité impérieuse de le faire. Comment négocie-t-on avec cet interdit, qu'il soit intime, familial ou social ? On se retrouve dans un instant pour en parler, mais avant ça, on écoute Benjamin Biolay, le penseur.
S'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit: je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant. Y'aurait rien là-haut, pourrais-je j'emmenais les poteaux.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Girard, Alice Botello et David Thomas. Catherine Girard, je suis obligée de vous poser la question. Philippe Génada, dans son livre La Serpe, martèle l'innocence de votre père quand vous vous racontez qu'il vous a avoué sa culpabilité. Et ma question, c'est une question de réconciliation. Est-ce que ces deux vérités, au fond, ne peuvent pas cohabiter en littérature ?
Si on parle de vérité factuelle, non, il n'y a pas deux vérités, il y en a une. Il l'a tué ou pas ? En l'occurrence, il l'a tué. Accessoirement, vous faites référence à l'article du Nouvel Obs, dans lequel Philippe Génada soulève des points factuels sur mon livre, qui visent quand même à discréditer mon récit. Or, tous ces points, les points soulevés sont faux et facilement vérifiables, notamment dans l'affaire des grands procès contemporains qui se trouvent en PDF, qui a été publié par Albin Michel en 1945.
Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu ironique, finalement? On se dit, vous, c'est votre père, et vous dites la vérité qu'il vous a dite, justement. Mm-hmm. Là où on pourrait penser que vous auriez pu vouloir le protéger, peut-être même en ne racontant pas, et en conservant...
Je vais y venir. Ouais.
Je trouve que c'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant, sauf que moi, je le vois d'une autre façon. Donc, ces éléments sont faux, et ça montre d'ailleurs que Génada maîtrise très mal un dossier dont il s'est auto-proclamé expert, d'une part, mais quant à ce que vous dites précisément, c'est une question d'opinion. Pour moi, ce qui était vraiment un déshonneur et quelque chose d'inacceptable, c'était ce choix entre quelque chose dont je savais que c'était un mensonge, c'est-à-dire l'innocence d'un fils de famille qui aurait subi un sort terrible et terriblement injuste quand je savais que c'était pas vrai, ou alors l'autre hypothèse, c'était que mon père était l'assassin. Il faut dire que dans cette famille, il y a une fortune colossale et qu'il en est le seul héritier, donc qui était l'homme le plus vil de la terre. Or, toute sa vie a prouvé son mépris de l'argent et sa générosité est tout à fait autre chose. Enfin, c'est pas que j'étais confrontée à ce choix, c'est que c'est une question qui s'est posée effectivement une fois que j'ai écrit mon livre, puisque le but d'écrire mon livre, c'était de me mettre en face de ce qui s'était passé par l'écriture, puisque c'est mon moyen d'expression.
La question de la vérité, elle vous travaille aussi, David Thomas. Vous écrivez aussi votre livre contre la romantisation de la folie.
Ah oui. En fait, c'est parti d'un article. Il y a eu un article qui avait été écrit par un journaliste, écrivain, sur Sylvia Plath. J'ai lu ça quelques mois après la mort de mon frère, et il expliquait que les écrivains devraient tous aller dans des hôpitaux psychiatriques. Ça leur ferait écrire des livres
pour
singuliers.
Pour la créativité, la
voilà,
fantaisie.
Parce que c'est ce qu'on attend de la littérature. Tout ça. Et en lisant ce truc-là, c'était, en fait, le livre, je le portais, ça faisait 20 ans que j'avais ce livre en moi. Mais là, ça a été... vraiment, le truc qui a déclenché, où j'ai ouvert l'ordinateur, je me suis assis devant mon bureau.
Vous étiez en colère?
Ah, j'ai trouvé ça consternant. Parce que quand bien même on dirait ça sur le ton un peu léger... Moi, enfin, si vous voulez, après, je lui en ai pas voulu, parce que je me suis dit, si ça t'agace à ce point-là, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute... Enfin, c'est ni de ma faute à moi, mais c'est parce que, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, c'est insupportable d'entendre ça. Et donc, ça... C'était le seul truc que je voulais faire, et que je savais que je ferais en écrivant ce livre, c'était justement de raconter cette vérité, réalité de la maladie mentale, de façon assez cash, et qui va justement à l'opposé de cette idée que la folie, c'est quelque chose de léger, de merveilleux, de singulier... Okay.
C'est tout l'héritage romantique...
Voilà, mais le roi de cœur de Broca, vous voyez, ce film, voilà, c'est les doudingues. Mais non, c'est absolument pas ça, quoi. C'est l'inverse de tout ça. C'est noir, c'est dur, c'est brut, c'est brutal, c'est violent, c'est sale, c'est tout l'inverse de ça.
Alice Botello, comment vous avez fait, vous, pour ne pas tomber, justement, dans la romantisation de la folie?
Alors, je suis ravie si je suis pas tombée dans la romantisation de la folie, parce que c'était une grande peur en prenant ce sujet, en me disant que voilà, mes personnages principaux allaient être des femmes. Je crois que ce qui a réuni mon envie de parler de la folie, et particulièrement de la folie des femmes, et l'écriture, c'est ce rapport au langage très important dans la folie, qui est que c'est la seule maladie qui est diagnostiquée par le langage. Alors avec des épisodes, etc. Mais on se casse une cheville, on va voir une radio, alors qu'on va chez un psychiatre, et puis c'est le langage qui fait qu'on est diagnostiqué d'une façon ou d'une autre. Avec tout le bagage qui a été le diagnostic chez les femmes, il y a par exemple le livre d'Adèle Lyon, Mon vrai nom Elisabeth, qu'on parle très bien, sur son arrière-grand-mère qui s'est fait lobotomiser, mais aussi toutes ces femmes artistes, comme Sylvia Plath par exemple, où bah, alors voilà, c'est des hommes qui écrivent sur la folie des femmes, et qui en plus la diagnostiquent. Et c'était comment reprendre ce sujet.
C'est vrai que vous, il y a un décalage entre la vérité médicale et ce que vous ressentez.
Oui, parce que cette vérité médicale, elle veut maîtriser le langage, ce langage qui est défini par et pour. En fait, c'est très, comme vous disiez avant, c'est très physique. Moi, en tout cas, j'ai cette expérience, et comme ça rejoint ce que vous disiez, Thomas, sur le côté très physique, et en fait, c'est dur. Il n'y a pas le côté du génie, auteur ou autrice, qui est dans un hôpital psy pour...
Mais il y a un truc qui est tout bête, quoi. C'est la souffrance. Donc, écrire ces trucs-là, c'est oublier, négliger l'essentiel, l'essence même de ce dont on parle. Parce que dire de Sylvia Plath, écrire un truc sur Sylvia Plath, un article sur Sylvia Plath, qui s'est quand même suicidée avec ses enfants à l'étage au-dessus...
Oui, avec la tête dans le four.
Mais quel niveau de souffrance il faut atteindre pour faire un truc pareil?
Vous
voyez, ça, c'est ça qui est ahurissant dans cette conception.
Et d'où vient cette fascination, justement, pour cette folie romantique?
J'en sais rien. Je ne sais pas d'où vient cette fascination, probablement peut-être de l'ennui du quotidien, j'en sais rien, parce qu'on prête aux fous
une vision,
un regard sur le monde, la vie,
décalé,
etc.
Une fascination pour le talent littéraire, enfin pour l'imagination aussi.
Et une fascination très probable
au
aussi.
Au mépris total d'une souffrance qui frise la mort, bien souvent, dans les cas que vous citez.
Moi, je pense que ça vient du 19e, cette fascination que vous évoquez. Il y a quelque chose qui vient, qui fascine chez Baudelaire, Nerval.
Oui, les romantiques allemands aussi.
Voilà, les romantiques allemands, ensuite avec Artaud et tout ça. Oui. On oublie que ces gens-là étaient poètes. Moi, je pense que la maladie, la folie, n'a jamais fait écrire de chef-d'œuvre. C'est pas vrai.
Pardon. Allez-y. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, parce que j'ai l'impression que le lieu de la folie, c'est là où il n'y a pas d'écriture de soi. Alors, reprendre le thème de la folie, de l'hôpital psychiatrique ou de la maladie mentale, c'est faire récit du soi ou des autres, mais dans le cœur de la folie. Et c'est ça qui frôle et qui va vers la mort, c'est qu'il n'y a pas de récit du soi, et du coup l'identité, elle est complètement fragmentée.
Complètement morcelée, oui. Il y a une citation, Catherine Girard, que vous placez en tête d'un chapitre, le chapitre des aveux, justement, de votre père, elle est de Yankelevitch. Plus généralement, l'homme passe sa vie à apprendre ce qu'il savait. Je trouve que c'est très beau. Il y a quelque chose de l'ordre de la prescience aussi dans l'écriture. On en reparle quand on revient, puisqu'on entrera justement dans vos ateliers d'écriture.
Tomber du ciel à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie. Tomber dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tomber du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé du sommeil, perdu connaissance,
retombé en enfance au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux.
Jacques Higelin, Tombé du ciel, et nous sommes toujours en compagnie de Catherine Girard, Alice Botello et David Thomas. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Catherine Girard, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre.
Je sais ce que c'est qu'une peur trop grande reçue trop tôt. Une peur qu'on vous injecte avec ces piqûres de rappel dont chacune est une overdose, tout au long de votre enfance. Une peur de bête marquée au fer chauffé à blanc, de toute la force d'un adulte sur l'âme d'un enfant. Je sais la solitude incurable qu'elle génère. Enfin, je sais l'impuissance de l'intelligence, de l'éducation, de la puissance elle-même, contre les formes de folie qu'elle engendre. Voilà pourquoi, mieux que lui-même peut-être, je peux expliquer le drame de mon père.
Catherine Girard, vous expliquez quand même le drame de votre père en parlant, en employant ce mot, justement, de folie. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce mot ?
C'est très vague, hein. Comme en parlait David Thomas tout à l'heure, la folie peut être entendue comme synonyme de talent là où il n'y en a pas, mais il y a au contraire derrière une souffrance morbide et bien souvent mortelle. Et puis, elle peut être aussi vue comme quelque chose de beaucoup plus péjoratif.
Là, c'est le résultat des violences subies.
Alors, on ne sait pas la définition de la folie vraiment, et d'ailleurs, à vrai dire, je crois que même les psychiatres ne la cernent pas vraiment, puisqu'il y a une évolution à chaque fois dans la définition. J'ai pensé à la schizophrénie quand mon père... Quand je savais cette vérité, je savais qu'elle était préméditée, tout ça, ça avait été fait le fruit d'une conversation très claire. Mais quelque part, je ne voulais pas l'admettre, hein. C'est pour ça que j'ai fait ce travail d'archives, et donc je ne voulais pas admettre que ce soit une préméditation. Quelque chose en moi ne voulait pas, et donc j'ai consulté deux psychiatres, dont un qui... deux psychiatres différents. Un homme qui est un psychiatre, qui est d'ailleurs le psychiatre le plus cité au monde, mais ça c'était parce que les psychiatres parisiens ne répondaient pas à mes mails. Donc j'ai été chercher sur Google un psychiatre Harvard qui a répondu le lendemain, et qui était spécialisé notamment dans cette période-là, les années 40. Et donc une autre psychiatre, cette fois j'ai choisi la deuxième, j'ai choisi une femme, jeune, pour avoir un point de vue différent, contemporain, ouais, et européenne. Mais donc ça faisait deux points de vue, bon, qui ont conclu à l'absence de schizophrénie dans les troubles psychotiques qui marquent ma famille. C'était les troubles qui pourraient frapper ma famille, que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, cette violence récurrente dans la famille, ou mon père. On a écarté ça pour mon père. Cependant, moi, je trouve que quand on passe la limite infranchissable de décider le meurtre, ou même sans décider de tuer quelqu'un, j'appelle ça la folie, et je peux me le permettre, puisque la folie, on voit bien que la définition de la folie,
oui,
elle
la
est
définition
très
est assez floue.
Voilà, c'est un champ très vaste.
Et d'ailleurs, Alice Botello, vous utilisez le mot folie dans votre titre, folie entre mes doigts, et vous, David Thomas, vous ne parlez pas de folie.
Non, parce que je ne sais pas où commence et où finit la folie.
Vous préférez parler de maladie mentale?
Moi, je parle de maladie mentale. Oui, mon frère n'était pas fou, il était malade. C'est une maladie. C'est un mot fourre-tout. Et on peut y mettre tout ce qui sort un peu de la norme, quoi. Hein, un truc singulier. On traite les gens de fous, de folles quand ils sont en colère ou quand on ne comprend plus.
Quand ils sortent du cadre,
ou quand ils sortent de l'orgon, on dit mais t'es fou, t'es folle. Vous voyez, bon, on met ça. Dès qu'on a un truc un peu singulier ou un peu... on appelle ça faire une folie. Bon, ça veut rien dire, en fait.
Voilà. Alice Botello, pourquoi ce mot de folie dans le titre de votre livre? Et vous l'utilisez d'ailleurs tout au long du livre.
Pour deux choses. Je pense que la première, elle rejoint ce que tu disais, ce que vous disiez, c'est que dans le titre, c'est folie entre mes doigts, donc c'est quelque chose qui ne se saisit pas et qui n'a pas de forme, et donc qui se meut en fait constamment selon les temporalités, les personnalités, les contextes socioculturels. Et à la fois parce que la folie, elle s'ancre avec des personnages féminins principalement, et que elle a une histoire dans la vie des femmes, dans la vie des femmes autrices.
Qu'est-ce que vous dites, qu'on dit maladie mentale pour les hommes et folie pour les femmes?
Non, pas forcément, mais que se réapproprier un terme, parfois, c'est le remodeler, enfin, et que de dire pour les folles, de dire à la première personne je suis folle, c'était une façon de me réapproprier ce terme qui est très négatif en fait pour les femmes. On dit pas ah mais t'es complètement fou, on dit ah t'es complètement fou, on dit pas t'es folle, c'est vraiment la pire
folle,
chose pour une femme, avec hystérie avant.
Pour un homme aussi. Être traité de fou.
Mais être traité de fou, c'est vrai que c'est pas
non, alors c'est rarement un compliment, c'est vrai.
Ah bah ça c'est clair. Oui.
David Thomas, nous avons en studio avec nous une libraire qui vous a lu. Il s'agit de Sandrine Babu de la librairie L'Instant dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Qu'avez-vous pensé du livre de David Thomas?
J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un texte très fort, très pudique, comme tu disais tout à l'heure, mais très fort. Je l'ai refermé avec émotion, avec cette petite boule là qui serre la gorge. On retient quelques larmes. Donc ce livre sur votre frère, c'est aussi, vous en parlez tout à l'heure, s'interroger sur l'écriture, sur le fait d'écrire. Parce que jusqu'à présent, vous disiez « je » dans vos livres, mais vous étiez masqué hein, derrière vos personnages. C'est vous qui le dites dans votre livre. Et cette fois, votre « je » est un vrai « je ». Donc c'est un gros changement. Donc vous racontez ce que ça fait de vivre avec ce frère schizophrène, cette maladie sournoise et impitoyable, ces 40 ans de brouillard vécu par votre frère. Et vous dites, ce qu'il y avait d'insupportable dans la mort de mon frère, ce n'était pas sa mort, c'était sa vie. Alors j'ai aimé quand vous racontez à quel point c'est difficile pour vous d'écrire sur lui, et comment vous essayez d'accéder à sa perception du monde en lisant de la poésie. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Vous écrivez aussi que vous ne souhaitez pas faire votre deuil parce que vous voulez garder votre frère vivant autour de vous, ce frère qui continue de vous surprendre après sa mort et donc qui n'est pas tout à fait mort en ce sens. Et ça, ça me parle, ça nous parle à tous, je pense, avec nos deuils. Vous convoquez des souvenirs d'enfance et d'adolescence et vous le faites magnifiquement revivre. Alors, peut-être que ce portrait est un peu magnifié, que la réalité est embellie, mais en fait, c'est votre droit de faire ça et c'est la force et la magie de l'écriture. Et vous me pardonnerez, pour finir, de ne pas être d'accord avec vous quand vous dites que vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter à vos lecteurs. Moi, je sais, parce que vous nous aidez à apprivoiser notre chagrin. La mort dans ce livre qu'à peine refermé, j'ai envie de relire.
Ah bah merci, je suis très touché. Meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur, c'est de lui dire qu'on a envie de relire sans lui une fois qu'on l'a fini. Donc.
Et Sandrine, vous aviez une question pour David Thomas.
Oui, je me suis demandé pourquoi vous aviez appelé ce livre « Un frère » et pas « Mon frère ». Alors, je sais qu'il y a un autre frère, mais je ne sais pas si c'est la raison.
Effectivement, il y a un autre frère. Nous étions trois frères, parce qu'il y a une ambiguïté dans « Un frère ». Je parle de « Mon frère », mais je suis aussi un frère. En fait, le livre, c'est plus que sur la maladie de mon frère, c'est sur le lien que j'ai eu avec lui. Et donc, parfois, il s'agit de lui et parfois, il s'agit de moi.
Il y a les deux faces.
Voilà. Donc moi, le livre, c'était une façon de revenir, je pars de ce qu'il y a de plus noir, c'est-à-dire je découvre mon frère mort chez lui et je remonte jusqu'aux années merveilleuses où il a été le personnage le plus important de ma vie. Quel personnage, et oui, j'en ai peut-être un peu rajouté, mais je crois quand même que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel aussi. Hein. Il n'était pas indifférent. Hein. Ouais. C'était pas un type
visiblement,
de...
oui.
Non.
Ouais. Sandrine Babu parlait de la poésie tout à l'heure. La poésie, elle se loge partout dans votre livre, dans votre langue, David Thomas. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait qui résume bien votre roman, je crois?
Je n'ai pas les compétences pour dire ce qu'est la folie. La seule chose que je sais, dans mes profondeurs les plus archaïques, c'est qu'elle est pour moi la pire des afflictions. Cette souffrance, je l'ai vue 4 décennies dans les yeux de mon frère. Et quand on a vu ce regard qui vous supplie de le sortir de là, qui vous adjure de l'aider, de mettre fin à ces hurlements silencieux alors que l'on est totalement impuissant pour ouvrir la porte de cette prison intérieure, on vit, même normalement, même heureux, avec une peine aussi diffuse qu'un brouillard. Même sous les latitudes les plus ensoleillées, même lorsque le bonheur est indécent, même quand la vie est un miracle, ce brouillard est toujours là pour vous rappeler le lamento sourd de la peine. Pendant presque 40 ans, ni mes parents, ni mon frère aîné, ni moi n'avons vécu sans ce brouillard. Là, à l'intérieur, derrière la joie et les sourires, toujours, il y avait cette brume. Et dans la brume, la silhouette de mon frère qui s'éloignait, lentement, inéluctablement, emporté par la maladie mentale, jusqu'à ce que l'on ne parvienne pratiquement plus à le distinguer, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre.
Merci David Thomas. Dans ce passage, il y a une phrase qui me frappe peut-être un peu plus que les autres. C'est quand vous dites que votre frère s'est éloigné, emporté par la maladie mentale. Et là, je trouve que c'est assez beau, parce qu'effectivement, c'est aussi une maladie qui emporte. Et c'est donc aussi une maladie qui évolue.
Ah ben, c'est une maladie qui emporte, dans le sens où c'est une maladie qui éloigne. Je dis dans le livre que mon frère, j'ai perdu 2 fois mon frère. Une première fois, c'est une perte qui a duré 40 ans. Pendant ces 40 années, mon frère a été littéralement recouvert par la maladie. Il a été emporté. Et je parle de relégation. Vous évoquiez les poètes tout à l'heure. Les poètes que j'évoque dans mon livre, ce sont étonnamment que des poètes russes qui écrivaient sous le régime stalinien. Ils étaient relégués. On les reléguait. Et le malade mental, il est relégué. Il vient du continent comme nous, mais on l'éloigne. La maladie l'éloigne de nous.
Et la phrase qui est dans le livre de Catherine Girard, de Yankelevitch, plus généralement, l'homme passe sa vie à apprendre ce qu'il savait. Est-ce que cette phrase, elle vous parle?
Ah oui. Effectivement, je pense qu'on passe sa vie... On dit se chercher. On parle de ça pour des adolescents, des jeunes, ils se cherchent encore. On passe probablement sa vie à essayer de formuler ce qu'on a en soi et qu'on n'est pas encore capable de nommer. Les gens qui écrivent ont cette chance, parce qu'ils y travaillent plus, ils passent plus de temps pour essayer de nommer ce qu'on a en nous, cette espèce d'émotion, ces sentiments.
Catherine Girard?
on cherche, on passe son temps à découvrir des choses qu'on, quelque part, on savait déjà. Aussi parce qu'il y a une chose qui est, sur laquelle Bergson a beaucoup écrit, c'est la vérité intuitive. Il y a des choses, il y a des vérités qui se transmettent sans parole, parce qu'elle passe au-delà des mots, tout simplement. Des choses qui se passent à travers... On le sait pour les... On a beaucoup d'exemples pour la Shoah, par exemple. Les traumatismes de la Shoah. Mais il y a maint exemple comme ça, où les choses se transmettent par des traumatismes, des attitudes, des comportements, des façons de comprendre le monde.
Et c'est aussi, puisque vous parlez de Bergson, c'est aussi la force de la poésie. David Thomas, c'est aussi la capacité justement à utiliser le langage d'une autre manière pour faire signe, pour faire sens autrement.
Pour voir et nommer ce que nous n'avons pas la capacité de voir.
Avec le langage simple.
Avec le langage simple. Et c'est pour ça que j'aime, moi particulièrement, j'évoque les acméistes. Parce que les acméistes, c'était en réaction au symbolisme. Donc c'était une poésie très concrète. Hein, Mandelstam, il avait une poésie extrêmement concrète. Et Akhmatova aussi. Et alors moi, ça me parle. Moi, dès que c'est concret, ça me parle beaucoup. Je préfère les choses assez concrètes, justement, aux choses un peu trop cérébrales.
D'ailleurs, vous avez une écriture qui est très concrète.
Je vais droit au but.
D'où l'art de la nouvelle ou pas?
Ah bah oui, ouais. Ça vient du fait que j'ai... Oui, je les instantanés, les 7 recueils que j'ai faits, il y a chez moi une volonté de faire court, mais pas pour faire le malin ou pour me distinguer. Parce que si tout est dit en 5 lignes, bah moi je garde les 5 lignes, voilà.
Et, vous avez bien raison.
Et dans mon livre, c'est le cas aussi. Il y a des chapitres, parce qu'on peut appeler ça des chapitres, je sais pas,
qui font 10 lignes. De 2 à 8 pages, même des plus courts.
Ouais. Oui, non.
Vous avez dit ce que vous aviez à dire.
Mais une fois que j'ai dit, c'est dit, voilà, il ne faut pas en rajouter, c'est pas la peine.
Alice...
Je ne sais pas le faire d'ailleurs. C'est quand même, j'essaierai, je crois que je n'y arriverai pas.
Alice Botello, vous avez été lue par un libraire suisse, Alexandre Dimitrievitch, de la librairie Delphica à Genève. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous avez été stupéfait par la qualité du premier roman d'Alice Botello.
Oui, Alice Botello, j'ai trouvé votre premier roman d'une qualité littéraire éclatante, même si le récit de ce séjour en clinique psychiatrique a été aussi relativement éprouvant à la lecture. Ce que j'ai ressenti et ce que je retiendrai de ce roman à la toute fin, c'est cette intensité incroyable. Tout y est vécu à 2000 à l'heure, comme amplifié par les troubles de l'humeur de vos personnages. Et j'ai vécu par procuration les complicités que vous décrivez, les phénomènes de groupe, cette cohésion entre patientes, parce que tout déborde de sincérité dans votre écriture. Et c'est bouleversant en tant que lecteur de voir comment, dans ce lieu d'apparence d'exclusion, naît un sentiment d'appartenance si fort entre ses habitantes. Chacune d'entre elles, elles se battent pour l'une pour l'autre, se demandent si ça va aujourd'hui. Et je veux dire qu'elles le font pour de vrai. C'est extrêmement touchant. Et là où le texte m'a éprouvé, comme je le disais avant, c'est quand j'ai compris que le simple fait de revenir à cette norme était un chemin aussi douloureux. On en vient même à en vouloir en tant que lecteur ou psychologue qui m'a semblé, des fois par mégarde, provoquer des souvenirs, au risque de nous plonger aux côtés de votre narratrice dans une incertitude totale. Et c'est ici que je me suis demandé si ce qui était provoqué était la remontée d'une mémoire enfouie ou une suggestion née du cadre thérapeutique. C'était des lignes assez difficiles à lire pour moi, et il me semble que vous ne tranchez pas tout de suite, et c'est ce flou qui m'a obligé à réfléchir à cette frontière fragile qui existe entre soins et manipulation. Enfin, pour terminer, je dirais que votre livre m'a fait repenser évidemment à une lecture qui m'avait aussi beaucoup marqué, celle de Yoga, de Emmanuel Carrère. Vous savez, à ce moment où il décrit l'impression d'être arrivé au bout de sa course, cloué devant un tableau au fond de son lit d'hôpital, j'ai retrouvé dans vos pages cette même intensité lucide et ce mélange entre un naufrage personnel et une reconstruction en devenir. Voilà, vous l'aurez compris, votre texte m'a fait vivre une expérience très très puissante.
Et Alexandre, vous vouliez revenir justement sur les séances chez le psy de la narratrice.
Oui, le rôle du psychologue, comme je vous le disais avant, m'a parfois laissé un peu perplexe. Je me demandais du coup, est-ce que vous avez voulu laisser planer le doute sur ce que j'ai appelé avant des suggestions thérapeutiques, ou est-ce que vous vouliez parler plus largement du rôle des psychologues dans les cliniques ?
Je crois que j'avais pas envie en tout cas de parler... des psychiatres, psychologues de façon générale, parce que je pense pas en être capable. Par rapport à cette ambiguïté entre la suggestion et, du psychologue et puis la remontée de souvenirs traumatiques de la narratrice, je crois que ça soit pour eux, c'était important parce que le rôle thérapeutique, il est aussi délicat, comme le rôle de patient ou patiente. C'est comment est-ce qu'on aide une personne à se souvenir, mais est-ce qu'il faut se souvenir ? De quelle façon sont ces souvenirs qui sont abîmés, qui ne suivent pas les autres, enfin qui n'ont pas la même consistance que ces autres souvenirs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu vous répondre.
Merci à Alice Botello. Dans un instant, nos libraires nous livreront leurs conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Vanessa Paradis, Le retour des beaux jours. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est maintenant l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Et on retrouve Sandrine Babu de la librairie L'Instant à Paris. Sandrine, les livres du jour vous ont fait penser à un roman que vous avez beaucoup aimé et que vous vouliez conseiller à David Thomas, mais à Catherine Girard aussi,
oui,
à Alice Botello, à tout le monde.
Alors c'est un livre qui est sorti à... je pense en 2017 ou 2018, qui s'appelle « Fugitive parce que reine » de Violaine Huysmans. C'était un premier roman. Dans ce livre, elle fait une véritable déclaration d'amour à sa mère, qui est un roman autobiographique, et sa mère et bipolaire, visiblement à une époque où on ne parlait pas encore vraiment de bipolarité, qui a dû être interné pour sa maladie, qui se débat pour mener sa vie de femme, sa vie de mère, et qui finit par se suicider. Et Violaine Huisman, elle a choisi de la raconter avec une structure assez originale, en fait, en deux temps, où d'abord elle raconte du point de vue, de son point de vue, elle, en tant que petite fille, et après, et elle convoque ses souvenirs, et ensuite avec un point de vue extérieur, où on refait la vie de cette femme. C'est un livre, voilà, extrêmement touchant, et voilà, qui la fait revivre avec beaucoup de... Voilà, on a l'impression d'être avec elle, et c'est pour ça que j'ai retrouvé ce que j'ai pu lire dans votre livre, David Thomas, cette immense déclaration d'amour à quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans la même réalité, alors pas bien sûr au degré de votre frère, mais un très beau livre, et avec du punch dans l'écriture.
Oui, d'ailleurs, c'est un livre qui avait obtenu le prix Françoise Sagan, et c'est un livre qui traite aussi de la jalousie d'une mère envers sa fille.
Oui, c'est vrai.
Parce que sa propre mère, là, cette femme, qui est effectivement bipolaire, était une femme jalouse et humiliante. Donc ça parle aussi de la généalogie de la violence, pour faire le lien avec le livre de Catherine Girard. Effectivement, c'est un très beau livre. Et juste, alors pour finir, j'ai une petite question à vous poser, Alice Botello et Catherine Girard, puisque c'est vos premiers romans. Comment on fait pour écrire un... Est-ce que vous appréhendez le deuxième, Catherine Girard, quand on s'est frotté à un sujet aussi personnel ?
Ça m'a traversé, l'appréhension du deuxième m'a traversé. Et moi j'ai un remède, puisque nous on est toutes les deux novices dans le truc, c'est de m'interdire de l'appréhension justement, de me dire non, il n'y a pas à avoir peur, travaille, enfin écris quoi.
Et vous, Alice Botello ?
Depuis la rentrée, j'ai pas écrit. Mais je pense, comme Catherine, je me mets dans... Enfin, c'est du travail. Après, je pense que là, j'ai pas écrit, parce que le fait qu'on rencontre des gens, tout d'un coup, c'est comme si ça travestit, où je me dis, ah mais...
Vous attendez encore.
C'est ça, je pense, ouais, qu'il faut que je m'éloigne, en fait, des potentiels visages. En fait, il faut que mon écriture reprenne, qu'il n'y ait plus de visages pour que ça reprenne.
Moi, c'est pareil, j'ai commencé, mais c'est vrai que la rentrée... On a besoin de solitude pour écrire quand même.
Oui, la rentrée, c'est beaucoup de temps.
Ouais. Oui, la rentrée, ça...
Et enfin, j'aimerais qu'on reparte un peu en Suisse. Alexandre Dimitrievitch, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Vous avez un conseil, vous, pour Alice Botello. On m'a jeté l'œil d'Anya Nousri aux éditions du Castor Astral. C'est un livre présenté comme le cri de révolte d'une jeune femme tiraillée par ses multiples origines.
Oui, et c'est aussi un premier roman. Et dans ce texte, on y suit une jeune femme en quête d'identité entre magie noire, construction de soi et superstition. Parce qu'elle est québécoise et kabyle, elle a toujours eu le sentiment d'être entre deux mondes très différents dès l'enfance. Et ce qui m'a frappé, et la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est la façon dont le roman y fait dialoguer un réalisme cru, où elle fait intervenir des souvenirs très précis, avec beaucoup de détachement, et une pensée magique héritée de ses proches, une pensée magique qui soigne les maux de dents, qui maudit les proches selon l'affinité de la personne. Mais en fait, à la lecture de ce texte très moderne, qui passe donc avec beaucoup de facilité du français à des expressions arabes ou québécoises, j'ai eu l'impression d'être à la fois ce gamin un peu stigmatisé à l'école, qui n'a aucune prise sur son quotidien, mais aussi cet enfant qui croit aux forces invisibles pour tenir debout face aux injustices qu'il ressent. Bref, ce qui m'a plu, c'est cette idée que la pensée magique peut sauver les apparences et peut-être guérir certaines blessures invisibles, ou du moins nous réconforter. Parce que oui, je crois qu'au final, implorer le ciel, dans les cas de la folie, même si ça paraît un peu risible pour les plus fermés d'esprit, c'est aussi une manière pour les proches de dire qu'ils tiennent à nous.
Et il faut dire que les termes en arabe, en kabyle et en créole ne sont pas traduits dans ce livre, donc c'est une expérience radicale mais intéressante. Merci beaucoup à nos libraires du jour. Merci Sandrine Babu, merci Alexandre Dimitrievitch. C'est la fin de cette émission avec trois livres très puissants donc cette semaine. Merci à vous, Catherine Girard.
Merci.
On recommande Une violentia veritas chez Grasset, qui est à la fois une plongée dans la violence héréditaire mais aussi et surtout une déclaration d'amour à un père. Vous l'avez très bien dit. C'est un livre qui fait réfléchir. Tout comme votre roman, David Thomas. Honnêtement, d'un point de vue littéraire, c'est une claque. Et sur le fond, d'une sincérité rare, sur ce que c'est réellement de supporter, dans tous les sens du terme, la maladie mentale. Ça s'appelle Un frère et c'est aux éditions de L'Olivier. Et enfin, Alice Botello, Folie entre mes doigts, est publiée au Mercure de France. Vous réhabilitez toutes celles qu'on ne veut pas entendre. Et votre voix, sa puissance, on l'entend tout au long du livre. Merci donc à tous les trois.
Merci.
Et merci à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Loïs Moreau à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier. Je rappelle que cette émission est coproduite par la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.